de l'école badinter de Tomblaine par le pont dans ce micro du 19 mai au 26 mai pendant tout le festival de théâtre aux actes citoyens.
Émission en direct, interview, lecture, texte, musique vous feront vivre le festival de Tomblaine.
Venez nous retrouver à Jean Jaurès ou sur le site des Francas, franca-on-r.fr, radio aux actes des citoyens.
Alors bonsoir, nous revoici en direct du festival des actes citoyens à Tomblaine, donc toujours sur 98.8 FM, donc en compagnie de Max et Jennifer.
Bonsoir.
Ça va, vous allez bien ?
Bonsoir, ça va.
Et donc là, nous allons interviewer Ali et Christos.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ?
Très bien, vous-même.
Donc, ils viennent de se produire en spectacle donc de Ivo Livi ou Le Destin d'Yves Montand.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Alors,
vous avez la bonne info, tout va bien jusque-là.
Ouais.
C'est super. Nickel. Alors, on va vous poser quelques questions. Comment déjà vous êtes rencontrés, tout le groupe ?
Il y a quelques années déjà, moi je les ai rencontrés au Festival d'Avignon parce qu'on travaillait, enfin on allait travailler sur un projet commun qui s'intitulait déjà à l'époque une pièce Anne de la Canibère du répertoire marseillais, une opérette marseillaise très très connue.
Okay.
Vous ne pouvez pas connaître parce que vous n'étiez même pas né ni vos parents d'ailleurs, c'est très très vieux. Okay. Et en fait Christos avait intégré une compagnie qui s'appelle les Carboni, une compagnie marseillaise très réputée à l'époque dans laquelle j'avais fait mes gammes. Et on s'est rencontrés au Festival d'Avignon il y a quelques années déjà à l'époque. Okay. On s'est croisés, mais je ne savais pas que j'allais faire partie de cette compagnie, j'allais revenir bosser avec eux. Okay. Et une fois qu'on s'est rencontrés, on a bossé sur cette pièce-là, et après on a monté plusieurs projets ensemble. Mm-hmm. Et voilà, et là, l'aventure continue depuis plus de 10 ans, je crois.
Et ouais, c'est ça, 10 ans.
Ouais, ouais. Ça ne nous rajeunit pas.
Ah, super.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez collaboré ensemble
autour de ce projet?
L'amour.
Oui. Non, il dit ça en rigolant, mais c'est exactement ça. Moi, on m'avait contacté pour ce projet-là parce qu'on avait écrit une pièce qui s'intitulait Sarville ou l'oublié de la Canebière, qu'on a joué ici d'ailleurs. Okay. Et une opérette aussi, inspirée de l'histoire d'un auteur d'opérette. Mm-hmm. Et on avait bossé ensemble avec Christos. Et quand on m'a proposé de faire ce projet sur Yves Montand, j'ai appelé directement Christos parce qu'il est très très calé en musique. Il fait des bonnes mises en scène, écrit bien. Et donc, je me suis dit, collaborer avec lui, ça va être easy. Et donc, voilà, on a collaboré ensemble et ça s'est super bien passé.
Et pourquoi un projet sur Yves Montand ?
Alors ça, en fait, c'est notre producteur qui avait vu justement Sarville, le spectacle qu'on a joué ici il y a 3 ou 4 ans.
Okay.
Et qui a adoré notre travail et qui nous a dit, j'adore ce que vous faites. Mm-hmm. Et j'aimerais vous proposer un projet autour d'Yves Montand parce que je pense que ça vous correspond. Okay. Et effectivement, il a eu la bonne idée pour nous parce que nous, on n'y avait pas forcément pensé, même si on aimait ce personnage et qu'on avait suivi tout ça. Et en fait, du coup, effectivement, on s'est mis à travailler dessus et tout de suite, ça a été une évidence. Et après, ça allait très vite.
Ok, bah super.
Et vous avez eu un déclic pour le fait de vous lancer dans le théâtre ou...
Pas vraiment pour ma part, les choses sont faites naturellement. Voilà, j'étais pas très brillant à l'école, j'ai arrêté en troisième. Je dis ça pour tous les jeunes qui galèrent ou pas, mais je suis parti faire tout un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec ça. Et en fait, le hasard des rencontres, en fait, c'était une évidence, mais je le savais pas moi-même. Et je l'ai compris avec le temps que c'était une évidence. Mais ça s'est construit petit à petit naturellement. J'ai eu de la chance aussi, et puis j'ai su la saisir, et voilà, ça s'est avancé comme ça.
Moi, c'est après la fac, en fait. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire des cours de théâtre, d'improvisation exactement. Mmh. Ça m'a plu, j'ai continué. J'ai continué la fac en parallèle pour justement arnaquer mes parents, leur faisant croire que je faisais des études. Mais j'ai continué les cours de théâtre pour les endormir un peu. Ouais. Ça a marché. Et après, rapidement, j'ai eu la possibilité de rentrer sur le marché du travail. Ouais. Et par le biais du spectacle. Donc j'ai été embauché dans une compagnie, les Carboni d'ailleurs.
Okay.
C'est eux qui m'ont assuré mon statut et après ça a tracé.
Okay.
Et vous pouvez un peu nous expliquer le résumé de votre spectacle que vous avez fait tout à l'heure ?
Alors, vas-y, je t'en prie.
Ouais, c'est le résumé de notre spectacle. Il s'agit tout simplement de la vie d'Yves Montand, c'est-à-dire Ivo Livi, c'est la personne qui deviendra un jour Yves Montand, qui va être une immense star internationale, pas que française, mais internationale, qui aura réussi et au cinéma, et à Hollywood et en France.
Il jouait notamment avec Marilyn Monroe, je pense.
Il a joué avec Marilyn Monroe dans les années fin 60. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a été immensément connu, qui a eu un poids très important, qui était un artiste de cinéma et de musical énorme.
Complet, il était complet, en fait.
Et qui était engagé en politique et qui a eu une vie absolument incroyable. Ouais. Mais incroyable. Ouais. Et personne, je connais aucune vie équivalente à la sienne en termes de. C'est improbable. Ouais. Et il disait lui-même les plus grands scénaristes s'inspirent de la vraie vie. Ouais. Et effectivement, si on avait écrit cette histoire à l'inventant, tout le monde nous aurait dit les gars, vous déconnez, c'est pas vrai. Cette histoire, elle est pas possible tellement elle est invraisemblable. Totalement. Et en fait, elle est vraie, c'est la sienne, c'est son histoire. Et donc, c'est la grande histoire d'Yves Montand.
Exactement.
Moi, je voulais juste une question, c'était savoir, vous avez reçu dernièrement un des prix.
Oui.
Et je voulais savoir, est-ce que ça peut ajouter une pression supplémentaire à votre travail ou vous continuez de travailler comme si de rien n'était ?
On ne travaille plus maintenant. Non, vas-y.
Non, le fait d'avoir reçu un Molière, bien sûr, on est super content, on est super fiers. C'est une sorte de consécration, surtout dans le milieu du spectacle, c'est l'équivalent d'un César au cinéma. Ouais. Et c'est prestigieux comme récompense, donc on est super heureux, fiers d'avoir reçu ça. Mais concernant la pression, peut-être pour le deuxième spectacle, on sera peut-être attendu. Et encore, je doute fort parce qu'il faut faire les choses avec plaisir, comme elles viennent, il faut les sentir. Et là, à l'heure actuelle, comme dit Christos, on ne se pose même pas la question. On trace, on finit nos dates, on finit le succès de ce spectacle-là, on finit la tournée. Et après, on verra ce qu'on fera pour la suite. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de pression autour de nous.
Et justement, quand vous avez appris que vous étiez nommé au Molière 2017, vous vous y attendez ou...
Franchement,
ouais.
Oui.
Ouais. Parce qu'en fait, non,
c'est trop de la bombe, ce spectacle.
Non, ça paraît prétentieux, mais en fait, on savait qu'on était, enfin, c'était probable, c'était possible parce qu'on était au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un Molière où on n'est pas potentiellement moliérisable. Comme ça vient pas de nulle part. Et nous, quand même, malgré tout, nous, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, mais ça fait 20 ans qu'on fait du théâtre et on a passé des étapes, etc., etc. Et là, on était avec la bonne équipe, la bonne écurie au bon moment. Dans les bons théâtres, dans le bon endroit, donc avec le bon spectacle, donc c'était possible.
Il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient qu'on pouvait l'envisager.
Bon, après, ça n'enlève rien au côté génial d'être nommé, d'avoir un Molière, mais malgré tout, voilà, ça vient pas de nulle part non plus, quoi.
Okay. Et vous produisez combien de fois par an à peu près ?
Là, cette année, on est à plus de 150 dates, je crois.
Ouais, 150 cette année. Ouais. Cette année, ouais. Ouais, puis peut-être pareil l'année dernière, d'ailleurs, peut-être plus l'année dernière.
Un peu plus parce qu'il y a eu le Festival d'Avignon.
Non, parce qu'on joue à Paris aussi.
Et on joue à Paris aussi,
tous les jours à Paris pendant un an. Ouais.
Et ça fait combien de temps que vous venez aux Actes Historiens à Tomblaine ?
C'est le troisième spectacle, je crois.
C'est le troisième qui vient ici. Je pense que le premier, c'était il y a 8 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être il y a 8 ans.
Ah,
je pense, quelque chose comme ça. Si vous voulez, je regarde les photos dans mon iPhone et je vois la date.
Et justement, avant de venir aux Actes Historiens, est-ce que vous connaissiez déjà cet événement, ce festival à Tomblaine ?
Non, sans mentir, on ne connaissait pas. Heureusement et malheureusement, parce qu'en France, il y a énormément de festivals diversifiés, anciens, aussi riches et intéressants les uns que les autres. Et dont celui-ci, dont celui de Tomblaine en fait partie. Et comme disait Christophe tout à l'heure à la fin de notre spectacle, en remerciant la mairie et la ville de Tomblaine, il y a quelque chose qui a marché ici au niveau de la culture. Il y a une sorte d'osmose qui a été faite avec la jeunesse et les pouvoirs politiques qui est assez remarquable en fait. Okay. Et qui est notable en fait. Mmh. Nous on aime bien venir ici et on s'y sent comme chez nous et franchement c'est super agréable. On ne connaissait pas ce festival mais maintenant, comme il vous dit, depuis 8 ans... On sait qu'il existe et on n'est pas les seuls.
Puis c'est une leçon de vie et pour nous, c'est très intéressant. Je trouve ça super et ça serait bien que d'autres villes et d'autres politiques s'inspirent de ce qui se passe ici. Je trouve ça vraiment super. Et donc, on est très fiers d'être ici, très honorés.
Et moi, je voulais savoir aussi le fait de connaître quand même le succès que vous avez. Bon, on a vu que après 10, 20 ans de théâtre. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une forme de lassitude ou bien une sorte de, comment dirais-je ça, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'artistes, une fois qu'ils sont au sommet de leur art, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi, ils perdent la tête, entre guillemets, voilà. Mmh. Est-ce qu'avec vous, comment vous faites pour garder la motivation, en fait, une saine motivation dans le
quand, jeu. Quand pas.
Déjà, quand il se prend trop le melon, on se met des tartes.
Déjà, on n'est pas au super grand sommet de l'affiche, ça dépend ce qu'on appelle sommet. Je veux dire, oui, au bout de 20 ans d'expérience, on entre guillemets de la bouteille, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Ouais. On maîtrise pas totalement notre art parce que on en apprend tous les jours. Ouais. Et non, on n'est pas encore au niveau d'avoir la grosse tête, je pense.
Okay.
Et après, on fonctionne comme une troupe encore, comme une petite famille. On n'a pas encore les moyens d'avoir la grosse tête. Mmh. Après, on a des gens autour de nous qui nous ramènent rapidement sur terre. Moi, je sais que ma femme, mes enfants me ramènent rapidement sur terre. Ouais. Mes potes avec qui je bosse, je pense que si je partais en live, ils me le diraient.
Ouais.
Et moi, pareil avec eux. On se fait pas de cadeaux de ce côté-là. Donc ça va.
Okay. Et du coup, pour écrire tous les spectacles, ça vous prend à peu près combien de temps? Enfin, exemple, un spectacle, ça vous prend à peu près combien de temps?
C'est aléatoire, ça dépend. Vous savez, quand vous êtes inspiré et que le sujet vous plaît, ça bombarde. Oui. Celui-ci, on l'a écrit rapidement, c'est-à-dire rapidement en écriture, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Mais je veux dire, en écriture, on ne s'est pas trop pris la tête. En
écriture
fait.
Pure, je ne pense pas qu'il y ait plus d'un mois. Hein.
Même pas. Ça fait trois semaines.
En revanche, en documentation, en recherche, en maturation, il y a eu peut-être un an et demi.
Ok. Et moi, je veux savoir, est-ce que vous pensez que le théâtre a encore sa place, justement, avec les nouvelles technologies, avec la télé, Internet, Netflix et tout ça?
Plus que
est-ce
jamais.
Est-ce que vous pensez vraiment que le Totalement. Théâtre aussi peut à sa place, justement?
Plus que jamais. Mmh. On vient chercher au théâtre des émotions différentes, un rapport différent. Je pense que le théâtre doit se réinventer. Le théâtre, il existe depuis la nuit des temps.
Oui.
Et il est toujours là aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est sûr, il a des moments où c'est plus compliqué. C'est sûr qu'il a face à lui des médias très forts, très puissants. C'est sûr qu'il faut intéresser une jeunesse à venir au théâtre. Mais je pense que si on arrive à créer des projets intelligents, vivant, où on prend pas les gens pour des idiots, ben le théâtre il continuera. Regardez la télé, elle prend un peu une claque parce qu'elle a beaucoup pris les gens pour des idiots, la jeunesse notamment, et les jeunes se tournent vers d'autres médias, mais le théâtre est toujours là. Regardez, ce soir on est là, on discute ensemble, il y avait une salle pleine. Alors évidemment, il faut que c'est un travail avec, avec tout le monde, avec les institutions, avec tout ça, mais ça se fait. Ça se fait et c'est difficile, mais je crois qu'aujourd'hui on peut moins se permettre de faire, de prendre les gens pour des idiots, de faire des pièces un peu faciles. Ça existe toujours, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais à la fois, c'est un défi, c'est un défi. De toute façon, l'art, c'est un défi. Tous les jours, on n'est jamais arrivé à rien. Une fois qu'on a fait ça, c'est fait, c'est fini. Maintenant, il faut faire autre chose. Et le théâtre, bah ouais, il existera toujours, je pense.
Et au bout de tant d'années, vous avez l'appréhension ou le trac avant de vous produire à chaque fois, ou au fil des années, ça... C'est naturel, c'est...
Non, c'est...
Ça dépend des artistes.
Moi, perso, je l'ai toujours. En fait, quand j'ai commencé, avant de jouer une pièce, je pouvais avoir le trac 15 jours avant. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Après, avec le temps, je commençais à l'avoir une semaine avant, 3 jours avant, 2 jours avant, 1 jour avant. Mmh. Après, c'était la journée où je n'étais pas bien. Après, c'était l'après-midi. Après ces quelques heures, maintenant je vais vous dire la vérité, ça te quoi 3 minutes avant de monter sur scène.
Et encore, t'es gentil.
Non, si, je te jure. 3 minutes avant de monter sur scène, c'est-à-dire... Quand il fait noir, il y a la musique, là, bam, juste avant d'entrer sur scène, une petite pique d'adrénaline qui vient. Pourquoi? Parce que, je vous jure, si vous n'avez pas ce trac-là, c'est inutile de faire ce métier. Ouais. C'est le piment, c'est l'assaisonnement de qui vous donne envie d'y aller. C'est important. Et je pense que tout le monde l'a. Après, on l'apprivoise. Avec les années, on l'apprivoise. Vous l'apprivoisez aussi quand c'est un spectacle que vous connaissez bien, que vous avez tourné, où entre guillemets, il n'y a pas trop d'enjeux. Vous savez que ça marche. Vous savez qu'il y a vos camarades qui peuvent vous aider si vous vous froissez. C'est un travail d'équipe.
C'est sûr que la création du spectacle amène un stress de n'importe quel spectacle. On ne sait pas où on va, où on met les pieds. Là, oui, effectivement, ça amène un stress et un trac énorme. Après, au fur et à mesure, quand vous avez joué un spectacle 300 fois, que vous savez comment il est accueilli, que vous savez que même quand vous n'êtes pas bien, il y a quand même beaucoup de choses qui passent et tout ça, c'est plus facile à appréhender.
Exactement.
Et puis, il y a des artistes qui ont le trac quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, qui ont un trac énorme. Il y en a moins, ça dépend des gens.
Ça dépend, ouais.
Est-ce que vous pensez justement que cette pièce c'est une pièce engagée, justement?
Ouais, je pense, parce que de toute façon Yves Montand était quelqu'un d'engagé, il n'a jamais cessé d'être engagé, donc la pièce, vu qu'on parle de lui, elle est forcément engagée. Elle raconte l'histoire d'un siècle, elle raconte l'histoire de pauvres gens qui ont fui l'Italie fasciste en 1920 pour arriver en France. C'est des histoires de migrants, c'est des histoires qui font écho avec ce qui se passe aujourd'hui, des histoires de tolérance ou de racisme, puisqu'ils arrivent, ils sont italiens et comme ils sont différents, bah, ils se font accueillir dans des mauvaises conditions. Voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que c'est plus grand, l'échelle est plus grande, les pays sont plus lointains, etc. etc. Les différences sont peut-être plus grandes, mais on vit la même chose. Et peut-être de façon pire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a l'histoire nous sert de leçon normalement. Et finalement, non, puisque ce qu'on raconte est la même chose. Et en fait, ça ne nous sort pas de leçon. Voilà, donc, donc même si c'est un spectacle léger où on s'amuse, on passe une bonne soirée, la toile de fond, c'est un spectacle engagé. Puisqu'on fait des références à aujourd'hui, voilà, on fait l'arrivée des Italiens à Marseille en 1920, on invente les salles Rital à cette époque, à cette époque-là, on dit qu'ils sont mal reçus et donc on rigole avec les clichés de l'époque, mais on fait un parallèle avec avec les Arabes aujourd'hui, on dit les salles arabes, le travail d'arabe, le travail d'italien, voilà, c'est un cliché, c'est équivalent. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens souffrent et qu'on pourrait faire différemment, mais donc du coup, c'est un spectacle engagé. Finalement, c'est un spectacle engagé.
Et après, le message qui, pour moi, est sympa dans ce spectacle, c'est pour les jeunes qui veulent en faire leur métier. Enfin, l'art, c'est un jeune, c'est un clandestin, il ne faut pas l'oublier. Son père est venu à pied en France. Il était dans les quartiers nord de Marseille. Il se mangeait un œuf divisé en quatre avec une goutte d'huile d'olive. Et il a vrai. Fini à Hollywood.
Ouais, quand même.
Tout ça grâce au travail.
Ouais.
Le mec, il a jamais lâché. On n'a pas eu le temps de l'exploiter dans le spectacle, mais jusqu'à ses 60 piges, il faisait 2 heures ou 4 heures de danse classique tous les matins à la barre. C'était un superbe athlète. Il travaillait non-stop. Et ça a payé. Ouais.
Oui,
ça a payé.
Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire au-delà même de l'art, on peut faire l'équivalent pour le travail et l'abnégation. Oui. On s'en fiche que ce soit de l'art finalement. Ou qu'il était
du sport,
artiste, il aurait pu être autre chose, avocat, médecin, menuisier, maçon, j'en sais rien, mais c'est sa conviction à s'en sortir a été très forte. Il s'en est sorti, il est allé très loin.
Okay.
Et quand vous faites des spectacles, vous attendez. Vous visez un public particulier ou c'est pour tout le monde ?
Que des vieilles. Des vieilles de 84 ans. Non, bien sûr, non. On essaie que ça soit ouvert le plus possible aux gens. Et nous, on est contents d'avoir des jeunes, même si vous êtes perdus. Je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver ici ce soir. Mais non. C'est façon de parler, c'est-à-dire que Yves Montand, sincèrement, on ne va pas se voler la face. Si je vous avais vu dans la rue, comme ça, en centre-ville, en train de faire du sketch, viens voir, tu connais Yves Montand ? Je me répétais ta planche sur la tête, de façon de parler. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, vous avez découvert qui était ce mec-là. Ouais. Vous allez rentrer chez vous, Wikipédia, vous allez vous renseigner et dire waouh, franchement, un destin de malade. Mm-hmm. Ce que je veux dire, ce spectacle-là peut toucher tout le monde.
Ouais.
Malheureusement, il va toucher des gens qui l'ont connu ou qui savent qui c'était
Spontanément, le public de ceux qui l'ont connu va peut-être venir plus naturellement.
Mais après, j'allais dire que vous ayez 8 ans, parce que moi, mes filles l'ont vu. La plus jeune, elle a 4 ans, elle s'est régalée.
Ouais.
La plus grande, elle a 10 ans, elle s'est régalée aussi.
Ouais. Celle de 8 ans, elle n'a pas aimé, c'est marrant.
Si, elle a kiffé, mais je ne voulais pas, parce que de 4 à 8, je me dis, elle est dans la fourchette, donc je ne l'ai pas introduit dedans. Mais voilà, que ce soit des enfants, des jeunes adultes, des adolescents, tout le monde y trouve son compte. Parce que c'est un
spectacle universel, il y a une universalité.
Ouais.
Bah écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
On vous remercie beaucoup.
Bon courage à vous pour la suite.
Merci. Ça va aller, merci.
Et on espère vous retrouver pour un prochain festival à Tomblaine.
Avec plaisir.
Ok, merci.
Rentrez bien. Ciao.
Ciao.
À bientôt.
Salut.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.